Le combat du carême de ce troisième dimanche se révèle à nous dans, j'ose dire, sa splendeur, c'est-à-dire sa dureté. Nous ne pensions pas, en commençant ce carême, avoir de si durs combats à mener. Eh bien voilà que nous sommes entrés avec le Christ dans ce combat. C'est une lutte contre le mal et nous en avons des armes. Voyons d'abord cette lutte. Cette lutte, me direz-vous, est-elle spirituelle? Est-elle matérielle? Bien entendu, l'esprit de l'homme qui, toujours, va vers son dualisme destructeur, pourrait penser que c'est ou l'un ou l'autre. Non, notre combat contre le mal, il est spirituel et il est matériel. L'ordre de ce monde, qui s'appelle l'ordre naturel, a sa réalité propre, son autonomie. Il faut le respecter. Il faut le respecter et ne pas immédiatement, par une espèce de surnaturalisme déviant, croire que parce qu'on a la foi, parce que on va prier, alors tout va s'arranger. Non. L'action de Dieu, qui est une création, se donne à travers la nature qui est sienne. Et vous le savez, pour nourrir un enfant, il ne suffit pas de prier Mary Poppins. Il faut faire des courses et le nourrir. Le bienheureux lait qui nourrit l'enfant ne vient pas de nulle part, il vient du sein de sa mère. Voilà pourquoi il nous faut respecter l'ordre naturel dans sa dureté et ne pas croire que par un coup de baguette magique nous en serions affranchis. Mais attention, il serait tout aussi désastreux d'oublier que cet ordre naturel est ordonné à Dieu et que donc il sort de l'Esprit de Dieu, que sépare un mouvement spirituel que toute matière est venue. Voilà pourquoi nous devons redoubler de prières. Voilà pourquoi notre combat est d'abord spirituel, ontologiquement dans son essence, ce qui ne veut pas dire dans son action toujours, mais ce qui est premier dans l'ordre de l'intention et dernier dans l'ordre de l'action. Et oui, il nous faut agir et nous en remettre à Dieu. C'est tout un. Voilà ce combat contre le mal, qu'il soit ce combat contre l'épidémie qui frappe notre pays et l'ensemble des pays du monde, peu ou prou, qu'il soit ce mal intérieur qui ronge mon âme, la méthode est toujours la même, porter l'ordre naturel, le réordonner par une action saine et une prière qui va lui faire toucher Dieu. Ce mal dont le mystère se révèle à nous dans sa cruauté aujourd'hui, il est une privation d'être. Comment ne pas voir que le mal est une pure privation? Privation des messes pour le peuple de Dieu, privation de notre rencontre qui nous permet de nous fortifier les uns les autres, privation de soins, privation de vie. Le mal et son cortège de malheur n'est jamais que négatif, il n'est jamais qu'une privation de bonheur, de bonté et d'être. Il nous faut donc nous établir dans ce bien, le solliciter et le faire, ce bien qui est une recréation. Il ne faut pas perdre l'espérance devant l'agitation du monde et la peur qui s'empare de tous, à très juste titre, humainement. Il nous faut proclamer l'espérance chrétienne que la recréation du monde est possible, que sa reformation dans le bien est promise dans l'être même du monde parce qu'il existe, parce qu'il est soutenu dans l'être, parce qu'il est appelé à vivre. La bonne nouvelle, mes bien chers frères, c'est qu'il n'y a pas de bien sinon en Dieu. Tout bien réalisé concourt du bien qui est Dieu et chaque action bonne que vous engagerez vous inscrira en lui. Voilà pour cette lutte contre le mal. Les armes, c'est une simplicité déconcertante pour nous qui sommes entrés dans ce carême. Nous les connaissons depuis le début. La pénitence, la charité, la prière. Bien sûr, nous avons entendu ces conseils au mercredi saint, peut-être insouciants, peut-être non pas insouciants spirituellement, conscients de notre devoir de nous lancer dans cette bagarre spirituelle. Voilà que ces armes prennent toute leur valeur et leur puissance. La pénitence, petite pénitence, comme je vous le conseillais au début de ce carême, une pénitence voulue, la privation d'un bien pour affermir notre âme, une privation modeste, une privation discrète, une privation inoffensive à notre être. Voilà que la pénitence qui nous est proposée semble d'une toute autre nature. Il nous semble devoir subir une pénitence très immodeste, une pénitence publique, une pénitence offensive de notre vie et de notre vie spirituelle. Eh bien, c'est une pénitence subie, c'est une pénitence passive qu'il nous faut accepter pour la dépasser. Il ne s'agit pas de faire comme si il n'y avait pas cette pénitence. Il faut, dans le réalisme de notre vision du monde, prendre en compte cette pénitence pour l'offrir et arriver à la dépasser. La pénitence, le partage ou la charité sont ensuite les efforts de carême habituels des chrétiens. La charité, c'est le bien. Il faut donc, il y a deux manières de faire le bien. Il y a d'abord ne pas faire le mal et ensuite réaliser le bien. Ne pas faire le mal, comment ne pas penser aux gestes que nous prendrons pour ne pas propager cette contagion. Et faire le bien, notre prière va tout spécialement à ceux qui vont en avoir le plus besoin, c'est-à-dire les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, bref, tous ceux qui vont soutenir les plus pauvres, les plus démunis, les malades. Il nous faut, dans cette charité effective, faire un avec l'action la meilleure, avec celle du Christ, c'est-à-dire soutenir encore et sans cesse le meilleur. Enfin, la prière qui semble nous être arrachée, notre prière publique, la liturgie, célébrée ici à huis clos, il nous faut nous appuyer sur le Verbe de Dieu qui est notre Sauveur. Alors, vous aurez la force de traverser toute épreuve. Ce Verbe de Dieu, je vous recommande, pour ceux qui seront confinés trop longtemps, la lecture, si vous l'avez dans votre bibliothèque, de Verbum Domini, une exhortation apostolique sur le Verbe divin qui a une petite dizaine d'années. Ce Verbe divin nous est donné dans la proclamation de l'Écriture sainte et nous venons de l'entendre. Cette parole est vivante parce que c'est le Christ lui-même, c'est lui qui nous fait vivre. Il vous faut lire et relire, méditer cette parole, la manduquer, la manger comme disent les pères de l'Église. Va, prends, lis et mange cette parole qui est censée nous faire vivre, qui est source de vie. Cette parole méditée, intégrée, que vous recevez dans l'Eucharistie en venant communier, ce Verbe divin fait chair, fait pain, qui sous les apparences du pain et du vin se rend présent. Alors oui, bien sûr, nous en sommes privés, pour le plus grand nombre. Les prêtres seulement, à l'autel, communieront, et le peuple en est privé. Mais il vous faut faire des communions de désir, des communions de désir qui donneront des grâces spirituelles à la hauteur de votre foi. Oui, Dieu comble son bien-aimé selon son cœur. Il vous faut désirer, redécouvrir l'acte spirituel de la communion personne ne s'approche de la Sainte Table sans d'abord communier spirituellement, sans quoi ce serait un sacrilège, car ce n'est pas un acte purement matériel, c'est un acte spirituel, dit saint Thomas d'Aquin, il n'y a de communion que spirituelle. Alors même si vous ne pouvez pas finir jusqu'au bout dans ce désir spirituel qui donc réel doit s'incarner dans notre vie, désirez pouvoir le faire dès que cela sera possible, désirez que Dieu comble les désirs de votre cœur. Ce faisant, et spécialement le dimanche, où nous sommes tenus de ce que nous appelons l'obligation dominicale, c'est-à-dire de sanctifier le jour du Seigneur, ce faisant, en lisant l'Écriture sainte, en la méditant, en l'intégrant profondément à nous et à notre vie, et en désirant profondément cette communion avec Dieu, vous sanctifierez le dimanche autant que vous le pourrez, en participant de cette communion avec Dieu. Tout comme la mort enlève la communication immédiate et nous plonge dans la nécessaire communion spirituelle, j'ose dire que cette privation de messe est une mort pour nous, une mortification, c'est-à-dire quelque chose qui nous est enlevé et qui doit renforcer la valeur spirituelle de notre prière, qui doit la faire toujours plus intense et nous faire espérer qu'elle nous sera bientôt donnée. Prions, mes frères, prions les uns pour les autres et invoquons saint Roch, notre saint patron, dont les reliques sont sur l'autel avec celle de sainte Geneviève, la patronne de Paris, qu'il nous soit des intercesseurs puissants pour nous accorder de vivre en Dieu, pour nous accorder de vivre. Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions. Intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages et de tout mal. Saint Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Ainsi soit.